Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, résolution de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Le commandant des troupes kenyanes déployées dans le cadre des EAC propose de privilégier les processus politiques et diplomatiques. Le général-major Jeff Niagar l'a dit hier mercredi à Goma lors d'un point de presse. Vous l'entendrez. La province du Congo central organise du 17 au 20 novembre prochain à Kisantu son deuxième forum économique qui sera couplé avec une foire agricole. Le thème de ce forum est l'agro-industrie, moteur de croissance et de développement du Congo central. L'invité de ce journal est le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Christophe Lutundula nous parle de la problématique des mesures restrictives prises par le Conseil de sécurité de l'ONU face à l'approvisionnement en armes par la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le commandant des troupes kenyanes déployées dans le cadre de l'EAC propose de privilégier les processus politiques et diplomatiques pour résoudre le problème de la crise sécuritaire dans l'est du pays. Le général-major Jeff Niagar l'a dit hier mercredi à Goma lors d'un point de presse. Selon lui, en dehors de ce front politique, devrait suivre la démonstration et le désarmement qui devrait cibler aussi bien le M23 et plus de 120 groupes armés qui écument la région. On l'écoute.
Three tracks. And the first priority was the political process.
La première priorité était le processus politique. Présentement, nous avons le processus de Luanda et de Nairobi. Quelque temps, la guerre ne peut pas résoudre le problème. Nous devons aussi privilégier la diplomatie. À cela s'ajoute le processus de désarmement et de mobilisation. Cela ne cible pas seulement les M23, mais nous avons aussi plus de 120 groupes armés en RDC qui sont en grande partie responsables de l'insécurité. Ce n'est que cela qui puisse nous aider à atteindre l'objectif.
Then we will automatically transit to the third track, that is military action.
Pendant ce temps sur le terrain, au lendemain des affrontements de la journée de mardi dernier, la situation est restée tendue hier mercredi dans les zones de combat dans la partie nord du territoire de Nyiragongo. Selon des sources proches de l'administration locale et de la société civile, des détonations étaient entendues dans la matinée entre les groupements Kibumba et Buhumba. Des sources concordantes ont affirmé que l'armée a repoussé une énième tentative des rebelles qui voulaient déborder par la colline Nyundo dans les groupements de Buhumba. Nos efforts pour obtenir la réaction de l'armée sur la situation sont restés vaines. Et puis, les acteurs du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire présents à Kinshasa proposent notamment l'application dès l'année académique prochaine d'une formation à la préparation militaire des étudiants et étudiantes. Cette recommandation est contenue dans la déclaration faite mardi dernier à Kinshasa par les organes dirigeants des universités et instituts supérieurs. Ces derniers ont aussi déclaré leur soutien à la mobilisation générale lancée par le président de la République. On écoute un extrait de leur déclaration, lu par les professeurs Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Université de Kinshasa, extrait proposé par Alain Irung.
Conscient de la menace qui pèse sur l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo, déclarent leur soutien total à l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République, chef de l'État. S'engage à mobiliser toutes les forces vives des établissements de l'ESU à travers le pays par des activités d'éveil patriotique. Propose l'application dès l'année académique prochaine d'une formation à la préparation militaire des étudiants et étudiantes. Affirme leur disponibilité à développer des modules de formation civique, patriotique et militaire en concertation avec les services techniques compétents. Suggère la création d'une commission paritaire ESU Défense qui élaborera le contenu de la formation à la préparation militaire proposée ci-haut.
Agression de la RDC par le Rwanda. Martin Fayulu pense que le processus de Nairobi est un processus de validation des nouvelles frontières des territoires conquis par le Rwanda. C'est ce qu'a déclaré le président du parti SID hier mercredi à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. Martin Fayulu demande par ailleurs au Conseil de sécurité des Nations Unies de mettre fin au mandat de la MONUSCO et de mettre sur pied une autre opération dotée de mandats offensifs. Il le dit à Paul Matendo.
Le processus de Nairobi est un processus de validation des nouvelles frontières des territoires conquis en RDC par le Rwanda. Dans cette combine de Nairobi, il est prévu que M. Tshisekedi ramène un accord de cessez-le-feu qui, malheureusement, aura consacré l'occupation. Et c'est cela le vrai but de cette guerre. En effet, M. Tshisekedi a signé de nombreux accords avec les pays qui nous agressent et aucun de ces accords n'a été révoqué. De ce qui précède, j'accuse M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de haute trahison. Il faut enfin mettre un terme au mandat actuel de la MONUSCO et la remplacer par une nouvelle mission qu'on appellerait ONU RDC, opération des Nations Unies en RDC, avec un mandat offensif de rétablissement de la paix et de maintien de l'intégrité territoriale de la RDC.
La province du Congo central organise du 17 au 20 novembre prochain à Kisantu son deuxième forum économique qui sera couplé avec une foire agricole. Agro-industrie, moteur de croissance du Congo est le thème central retenu par les organisateurs. Serge Vangou est l'administrateur de la Chambre de commerce et de l'industrie du Congo central. Il explique au micro de Daniel Tambizoni.
Le choix des thèmes est en relation directe avec la structuration agricole sur laquelle nous souscrivons. La Chambre de commerce du Congo central souscrit à être un fédérateur en termes de structure et de structuration de l'écosystème agricole. Au-delà de l'agro-industrie et de la transformation, l'énergie verte, c'est tout ce qui va tourner autour de les possibilités de production d'énergie sous-tendant à l'agriculture. La culture et le tourisme, pour pouvoir faire de l'écotourisme avec les sites agro-industriels qui vont être mis en place pour justement permettre à ce que l'amour de la terre puisse revenir. Et la dimension du climat des affaires, justement, pour que l'investisseur qui veut rentrer dans ce monde-là puisse avoir les outils, puisse avoir les éléments juridiques et financiers qui le sécurisent.
L'équipe du projet d'appui pour le développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM, PME, avec à sa tête son coordonnateur Itaka Nanga, pour sensibiliser différents acteurs sur le programme Transform qui concerne cette ville de la RDC. La Banque mondiale a accepté d'accorder à ce projet un financement de l'ordre de 300 millions de dollars américains. À la suite d'un échange avec le gouverneur de province, Alexis Mangala a expliqué que le projet s'adresse essentiellement aux femmes entrepreneurs, aux PME nouvelles et existantes. Il appuie aussi les institutions de microfinance. Le coordonnateur du PAD et PME est au micro de François Kadima.
Le projet couvre les villes de Bunia, Mbujimayi, Kananga, Bukavu, Goma, Matadi et Kinshasa. Le coût du projet est de 300 millions, mais attention, les 300 millions ne sont pas répartis par ville. C'est une cagnotte qui concerne l'ensemble des villes. Alors, la ville qui s'organisera le mieux rafle la mise, c'est-à-dire que si les entrepreneurs de la ville de Kananga sont bien organisés, qu'ils soumettent des plans d'affaires qui soient acceptables, pourront rafler les 100 millions, pourquoi pas. L'enveloppe concerne les 7 villes. Ça, c'est du moins au niveau de la première composante qui apporte le soutien aux femmes, aux entrepreneurs, les PME également. Alors, pour la composante 2, ça concerne les institutions de microfinance qui appuient justement le secteur de PME.
Sensibilisation des filles écolières dans la cité de Lodja, en province du Sankourou. Près de 200 élèves, filles du complexe scolaire 3B, ont été sensibilisées mardi dernier contre les violences sexuelles faites à la femme et à la jeune fille en milieu scolaire. Ces écolières sont celles de la 3e année jusqu'en 6e année secondaire. Cette sensibilisation a été organisée par l'Association pour la promotion élevée de la femme, APEF, en sigle, en collaboration avec la société civile rénovée de cette province. André Onema Ndjongekama, président de la société civile rénovée de Lodja, a été joint par Esther Ndalafina.
Nous venons de réaliser une activité qui concerne la sensibilisation contre la violence faite à la jeune fille en milieu scolaire. Nous avons réuni les élèves filles pour leur faire comprendre que la violence faite à la jeune fille se passe si on n'arrive pas à éviter. Nous avons essayé de développer plusieurs matières. Les enfants étaient très attentifs et nous ont posé des questions. Nous avons répondu, nous leur avons prodigué des conseils et nous allons poursuivre cette activité de sensibilisation pour que les jeunes filles arrivent à dénoncer tout cas de violence faite à la jeune fille et puis de communiquer très rapidement dès qu'on est tombé entre les filets des bourreaux. Nous ferons tout pour poursuivre notre objectif à travers toutes les écoles de la province éducationnelle Sankuru 1 et Sankuru 2.
Dans la province du Maniema, les enfants vulnérables de la sous-division provinciale de l'EPST Kailo 2 dans la chefferie de Bangengele en territoire de Kailo ont bénéficié hier mercredi de l'assistance en tenue scolaire. Cette assistance en uniforme et chaussures est le don du comité provincial de l'EPST Maniema 1 dans le cadre de la promotion de l'éducation inclusive des enfants conformément à la vision du gouvernement, la stratégie sectorielle éducation et de la formation. Florence Kizalunga, reportage.
Papa, proviens te merci.
Merci. Papa, merci.
Papa, proviens te merci.
C'est sous ce mot de remerciement que ces 24 enfants vulnérables ont réussi avec joie de main du prophète Yo Ibokete Jean-Pierre leur don. Ces gestes n'ont pas laissé indifférents les parents qui envoyaient leurs enfants pieds nus et sans uniforme en classe.
Nous, les parents, nous disons merci au prophète parce que nos enfants venaient pieds nus sans uniforme à l'école. Aujourd'hui, nous disons merci au prophète pour les uniformes et les caches pour les enfants.
Le prophète lui parle du souci de contribuer au développement et à la promotion de la paix et d'une citoyenneté démocratique active. Yoï Bokete.
Vous êtes sans ignorer que nous avions lancé la campagne d'inscription de tous les enfants, filles et garçons à l'école, sans discrimination aucune. Et ces enfants vulnérables se sont présentés dans les écoles. Nous avons constaté qu'ils n'avaient pas de tenues scolaires et de chaussures. C'est ainsi que le comité provincial de l'EPST Maniema 1 a voulu accompagner l'éducation scolaire de ces enfants pour que ces enfants puissent demeurer le plus longtemps possible au niveau de l'école.
Le chef de ces chefferies a également salué ces gestes tout en invitant les autres partenaires à emboîter les pas. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Et puis plusieurs établissements scolaires de la province éducationnelle Congo Central 2 et de la cité de Manzangungu viennent d'être dotés de globes terrestres. Selon Jean Tshisekedi Kabasele, prophète du Congo Central 2, cette dotation est le résultat de son plaidoyer mené au ministère de l'EPST suite au manque de ce matériel didactique dans les écoles de la province éducationnelle de sa juridiction. Les points avec Nana Plurich Mambou.
Les globes terrestres est une sphère sur laquelle est dessinée la surface de la Terre. Il est la représentation la plus exacte de la planète. Ces matériels didactiques utilisés dans les cours de géographie manquaient dans plusieurs écoles. Les enseignants étaient confrontés aux difficultés pour faire comprendre aux élèves la question liée aux cinq éléments du globe, entre autres les méridiens, le pôle et l'hémisphère. Le prophète du Congo central de Jean Tshisekedi Kabasele a distribué ces matériels didactiques dans quelques établissements scolaires de la cité de Mbanzangungu, notamment à l'ITC Ebeya, à l'Institut Kola, à l'ITAF Bolingo et à l'Institut Silou. Pour les préfets de ces écoles, ces globes terrestres étaient un besoin pressant.
Ces matériaux didactiques vont nous aider encore à mieux expliquer la situation géographique aux enfants. Surtout que ça manquait vraiment, c'était un besoin majeur pour nous au niveau de l'école. Donc, une solution de plus pour que nous puissions vraiment servir nos enfants tels que nous les désirons.
Le prophète Jean Tshisekedi Kabasele invite les responsables d'autres écoles des sous-divisions de Mbanzangungu 1 et 2 à passer dans son bureau de travail pour les retraits de ces globes terrestres. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Éthiopie, les armes se sont tues dans le Tigré, dans le nord du pays. L'aide humanitaire commence à arriver, mais une autre région connaît une situation de guerre. Il s'agit de l'Oromia, la nation la plus peuplée de la Fédération éthiopienne. Ces dernières semaines, les affrontements opposant l'armée fédérale et la rébellion de l'armée de libération Oromo-Ola s'y sont même intensifiés. Présidentielle en Guinée équatoriale, la population partagée entre continuité et changement. Environ 500 000 électeurs de la Guinée équatoriale doivent se rendre aux urnes dimanche 20 novembre prochain pour départager 3 candidats à l'occasion de l'élection présidentielle. Nombreux veulent continuer avec le président sortant Teodoro Obiang Nguema, présenté comme faiseur de la paix. D'autres souhaitent se séparer de lui, évoquant notamment le manque d'emploi et de justice.
L'invité.
L'invité de ce journal est le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Christophe Lutundula nous parle de la problématique des mesures restrictives prises par le Conseil de sécurité de l'ONU face à l'approvisionnement en armes par la RDC. Christophe Lutundula s'entretient avec Michel Kifindangoï.
Christophe Lutundula, bonjour.
Bonjour.
Vendredi dernier, vous avez fustigé la difficulté pour la RDC de s'approvisionner en armes alors que l'embargo avait déjà été levé. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la RDC à s'approvisionner facilement en armes?
En tout cas, les mesures restrictives prises par le Conseil de sécurité de l'ONU par ses résolutions 1596 de 2005 et 1807 de 2008 gênent énormément les efforts du gouvernement de la RDC pour refonder notre armée, la doter des instruments nécessaires à l'accomplissement de ses missions régaliennes et accroître sa force de frappe face aux groupes armés qui commettent des crimes abominables et créent l'insécurité à l'est de notre pays. Et cela est indiscutable, c'est l'évidence même. Quand bien même la résolution 2641-2022 du Conseil de sécurité venait de réduire la liste des types d'armes soumis à l'obligation de notification par les vendeurs d'armes à la RDC, il ne reste pas moins vrai que la suspicion et la méfiance qui pèsent sur notre pays continuent à hypothéquer sa crédibilité auprès des banquiers, des fournisseurs et armateurs qui hésitent à traiter avec lui pour ne pas dire qu'ils refusent de traiter avec lui. C'est injuste et ce n'est pas objectivement fondé à l'heure actuelle.
Nous l'avons tous suivi. La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a bel et bien affirmé que l'embargo sur les armes ne concerne que les forces négatives et le gouvernement congolais n'est pas concerné. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les livreurs aient toujours des difficultés d'acheminer les armes facilement jusqu'en RDC?
Disons brièvement que en 2004, le Conseil de sécurité a créé un comité de sanctions. Sanctions, en fait, qui étaient imposées aux groupes armés évoluant au Congo et, de manière générale, à toutes les parties prenantes aux guerres que nous avons connues pendant cette période et un peu avant. Évidemment, à l'époque, il était demandé au gouvernement de la République de soumettre tous les achats d'armes à l'autorisation préalable de ce comité de sanctions. Mais par la suite, il y a eu une évolution qui a fait que, à partir de 2008, l'obligation a frappé un peu plus durement les groupes armés. Il est resté seulement, en ce qui concerne le gouvernement officiel de la République, l'obligation pour ceux qui nous vendent les armes et même ceux qui les transportent, dans une certaine mesure, de déclarer par une notification clair les types d'armes, des munitions, les quantités qui sont vendues à la République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas la République qui déclare, mais ce sont ceux qui lui vendent ces matériels de guerre. Et comme je venais de vous le dire précédemment, d'une manière ou d'une autre, nous sommes sur une liste qui n'est pas tout à fait propre et qui crée ce que moi j'ai appelé la suspicion. Ça nous pose quand même un problème qui n'est pas seulement psychologique, mais aussi politique et diplomatique quelque part.
Qu'avez-vous déjà fait de concret dans le cadre de la diplomatie pour que tous ces boucliers qui bloquent aujourd'hui la RDC à s'approvisionner facilement en armes soient complètement levés?
Sous la très haute autorité du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je viens de saisir le président du comité des sanctions de l'ONU, le représentant permanent du Gabon auprès de cette organisation internationale, qui a conduit la mission d'évaluation du comité des sanctions dans la région des Grands Lacs pour lui demander de recommander dans son rapport d'émission au Conseil de sécurité de réhabiliter notre pays dans tous ses droits en tant qu'État souverain, notamment en levant toutes entraves injustes et sans raison objective au redressement de son armée et à la protection de son intégrité territoriale ainsi que de ses populations et des institutions constitutionnelles.
Et que recommandez-vous à la population congolaise pour que les manifestations politiques ne jouent pas en défaveur de la RDC?
Je demande par conséquent aux Congolais de ne pas verser dans la violence contre des institutions du système des Nations Unies et des partenaires extérieurs. Une telle violence, à l'évidence, ne pourra que desservir notre pays au profit de ses ennemis intérieurs et extérieurs. Il faut faire extrêmement attention aux extrémistes de tous bords qui ne cherchent qu'à créer la confusion, à perturber les choses pour finalement dire voilà, ça vient décapoter. L'appel à la vigilance, nous lancé par le chef de l'État, signifie aussi ne pas tomber dans les pièges des pêcheurs à nos troubles.
Christophe Lutundula, je vous remercie.
C'était l'invité de ce journal, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, s'entretenait avec Michel Kifindangoy. Fin de ce journal, merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.